Interview.
6 Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou alors sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio nous recevons Cynthia Pedrosa, bonjour.
Bonjour.
Cynthia Pedrosa, vous êtes artiste peintre et actuellement vous exposez et jusqu'au 24 juin à l'ancien monastère de Sainte-Croix, une exposition donc de peinture. Et ce 24 se terminera avec un finissage et quelques petits agréments musicaux accompagnants. Alors Cynthia Pedrosa, quel est votre moyen d'expression au travers de la peinture ?
Alors du coup, j'utilise le fusain et dans un premier temps j'utilise le fusain et puis en fait le fusain ça va plutôt être autour de la recherche de traits. Donc moi je fais du figuratif et donc je vais commencer dans un premier temps à chercher des personnages. Je vais faire pas mal de personnages et puis quand il y a une expression que ce soit corporelle ou au niveau du visage qui m'émeut. Du coup, c'est à partir de cette expression-là que je vais raconter une histoire. Je raconte des histoires dans mes peintures. Donc la deuxième phase, je passe à la peinture à l'huile. Et donc je sais jamais finalement ce que je vais peindre. C'est ça qui est assez excitant dans la peinture. En fait, j'attends la rencontre avec des personnages, des individus. Et à partir de ce moment-là, je crée un contexte.
C'est un univers qui est, on peut dire, urbain quelque part, où la lumière, le ciel, enfin, ce que j'en ai vu, c'est-à-dire j'ai juste vu l'affiche en
D'accord.
somme, hein.
Okay,
alors
ouais.
J'imagine qu'il y a cet espace un peu restreint.
Ouais, alors je vais... Ouais, c'est un espace restreint, en fait, je travaille autour... ce qui m'inspire, ça va être la société, ça va être une réalité sociale qui va être entre l'imaginaire et la vision que j'ai du social. Alors quelquefois on peut me dire que ma peinture est assez peut être pessimiste ou assez pathétique. Moi je fais en sorte que mes personnages deviennent attachants. C'est la rencontre avec les personnages, c'est ce que je disais, et en fait c'est comme une rencontre dans une vie humaine. On apprend à se connaître, on peut jouer des rôles aussi, des fois on peut être travailleuse, mère, sœur, amoureuse, et à un moment on enlève les couches de l'appareil et on se rencontre là, on est en capacité d'être et de voir l'autre, et c'est ça que je raconte. Après, j'aime bien le côté pathétique parce que je pense que si je crée des personnages, c'est parce que je les aime, les personnages. J'aime l'être humain. Je suis très optimiste dans la qualité de l'être humain. Je vais plutôt être pessimiste par rapport au pouvoir, par rapport aux politiques. Mon travail, ça va être aussi autour des rapports de domination, des rapports de pouvoir, des oppressions. Et il y a ce contraste entre liberté, émancipation, un regard sur les règles, les normes. On est dans un état où on peut dire qui est créé par une minorité de personnes au pouvoir qui ont pour quand même vocation d'aller vers leurs intérêts. Et l'individu, quand il est autonome, quand il a un regard critique, il peut être un risque, un danger. Et c'est ce contraste-là sur lequel je travaille et qui permet, à mon sens, d'émouvoir. Après, on aime ou on n'aime pas, ce qui est important pour moi, c'est que ça crée une émotion. Donc ça va être des scènes de la vie quotidienne. Là, on ne voit pas l'affiche, mais cette affiche-là, c'est une représentation de... d'un transport en commun où, voilà, où les gens ne se regardent pas. Voilà, chacun est dans son quotidien, les gens ne se regardent pas. Et en fait, j'aime bien cette idée que les gens ne se regardent pas. Ça permet de centrer sur l'individu, sur un groupe de personnes, mais sur l'individu. Et après, c'est une sorte d'introspection. Chacun en pense ce qu'il veut, mais ce qui est important, c'est... à mon sens, mais c'est comme dans la vie, c'est de centrer sur la personne avec son histoire, son récit, ce qu'elle est. Et le fait qu'ils ne se regardent pas dans tous mes tableaux, en fait, les personnages ne se regardent pas, ça crée une lisibilité plus complexe, en fait. On peut aller dans l'univers de chaque personnage. Enfin, en tout cas, j'essaye.
Où se situe l'expressionnisme dans ta pensée
Alors c'est vrai que j'ai une influence autour de l'expressionnisme allemand. Je pense que l'influence est un peu dans mon quotidien, c'est un peu tout ce que je disais autour des rapports de domination, de pouvoir, de se rendre compte en fait des privilèges qu'on peut avoir et d'aller et d'être à l'écoute de l'autre. Et quand on regarde la société actuelle, où là on est dans une période économique qui est extrêmement difficile, où les fossés se creusent entre la classe dirigeante, la classe privilégiée, riche, et puis une classe sociale qui est plus en difficulté, qui devient de plus en plus précaire. En fait, c'est, je pense que c'est ça l'expressionnisme, c'est refléter la réalité d'une société d'un regard, ça, c'est mon regard à ma place.
Est-ce qu'un siècle après, c'est en quelque sorte un écho?
Ouais, je pense. Enfin, je pense qu'on...
En prenant compte de la configuration actuelle, ouais. De société, économique...
Ouais, je pense qu'à chaque moment de crise, l'histoire fait écho. Alors, pourtant, on la connaît, l'histoire. Après, à l'école, elle peut être orientée. En France, elle peut être orientée. Dans d'autres pays, elle peut être orientée. Et c'est donner un autre regard à cette histoire et à avoir une vigilance aussi moi, actuellement, ce qui me crée le plus de crainte, en fait, je trouve que ça va être une montée fascisante. J'ai des petites, justement parce qu'on parle d'expressionnisme allemand, du coup j'aime beaucoup Max Beckmann, et j'ai une petite phrase de lui qui reflète exactement ma peinture. Des fois on cherche des mots pour parler de sa peinture et c'est pas toujours évident, et en fait en lisant ce qu'il pouvait nommer, ça serait un peu ça. Donc je vais vous le dire. Donc il s'agit de chercher à partir de la réalité donnée le chemin de l'invisible, de rendre l'invisible visible en exorcisant la magie de la réalité. Il faut exposer nos cœurs, nos nerfs aux cris de déception des gens trompés. Il faut être près des gens, la seule justification de notre existence d'artiste. Passablement superflu et égoïste, c'est de présenter aux gens une image de leur destin. Cela n'est possible que si on les aime. Voilà, je trouve que ça reflète bien, en fait, ce que j'ai envie de faire percevoir.
Alors, les représentations, à observer tes travaux, décrivent tous les niveaux de société, hein, que ce soit un paysan, un employé, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il y a aussi... l'opulence, où il peut y avoir la misère, il y a des antagonismes, mais c'est quand même un reflet de la société d'aujourd'hui, en quelque sorte. Je voulais savoir, est-ce que pour toi, tu es au début de cette exploration?
Ouais. Alors au début, je ne sais pas. En fait, avant j'étais travailleuse sociale. Et donc j'ai été travailleuse sociale pendant à peu près 20 ans. Et j'ai arrêté le travail social pour me consacrer qu'à la peinture. Même s'il y a des ponts à faire, toujours et actuellement, par le biais d'ateliers. Mais je pense que ça a toujours été une préoccupation. Et puis, le travail social, c'était un moyen aussi pour moi de lutter, que les personnes puissent avoir accès aux droits. Et puis à un moment, je l'ai bien vécu au départ à partir partir du moment où j'étais dans la lutte. Et puis, il y a un moment, il y avait beaucoup de frustration et beaucoup de colère parce qu'il y avait le droit. Et puis, je voyais qu'il n'est pas toujours parfait, mais il y a le droit. Et je voyais que les personnes avaient quand même difficilement accès à leurs droits. Comme Max Beckmann parle des fois que l'artiste peut être superflu et égoïste, égoïstement, je me suis protégée en fait parce que ça me mettait à mal. Et je pense, donc je suis sortie du travail social et je pense que cette colère-là, qui est toujours présente, enfin, elle a toujours été présente, je la transforme un peu, je la transforme en art. Et c'est vrai, quand je fais des ateliers, alors moi je ne fais pas d'ateliers sur l'apprentissage des techniques de dessin, parce que je n'ai pas appris ça. Mais ça va être plutôt comment, autrement que par la parole, comment utiliser la peinture ou le dessin comme un outil pour se sentir valorisé, lâché.
Les dimensions de tes toiles sont de quel ordre ?
Alors là, actuellement, je suis en... Alors, normalement, mon atelier, il est chez moi. Moi, j'habite à Nantes. Et actuellement, là, ça fait 6 mois, je suis en résidence artistique dans le 91. Et du coup, j'ai un atelier qui est plus grand. Donc là, je peux faire des grandes toiles. Donc j'ai des grandes toiles qui font à peu près 2 mètres sur 1,80 m. Et puis, mais la plupart de mes toiles, ça va être du 100 par 100, 1 mètre par 1 mètre. Voilà. Et puis j'ai des petits formats aussi.
C'est en quelque sorte un alter ego quand tu dessines une personne sur la toile. Est-ce qu'elle correspond à sa dimension de grandeur nature,
ouais,
aussi.
C'est vrai. Et je prends.
Est-ce que c'est un dialogue?
Beaucoup plus d'aisance, de facilité, de plaisir finalement à peindre sur du grand format, parce que le geste est lâché. Et j'aime bien l'idée des corps qui s'imbriquent aussi. Et comme ça, je vais être dans la recherche pour trouver un petit peu qui sont les personnages et le contexte. C'est vrai que peindre à taille humaine, ça crée aussi beaucoup de plaisir. Alors après, la peinture, c'est pas toujours que du plaisir. D'ailleurs, au départ, quand j'étais plus jeune, je me disais que justement, je passais des moments qui étaient de recherche, qui étaient longs. Du coup, il y avait des moments qui étaient vraiment de... Alors, tout est relatif, bien sûr, mais en tout cas, dans la peinture, ça pouvait être de la colère parce que les choses n'arrivaient pas, une remise en question. Et puis, ça pouvait être aussi des moments de jouissance. Et je pense que c'était par ce biais de colère, de pénibilité, je me disais, la peinture, c'est pas fait pour moi. Mais finalement, j'y revenais tout le temps. Et j'ai rencontré un prof à un moment qui m'a dit, mais la pénibilité dans la peinture, tout le monde, c'est le cas de tout le monde. Et ça m'a, je me suis dit, ok, donc c'est normal, donc je peux y aller. Et je pense que c'est ces sentiments-là, extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui font que j'y suis retournée. Parce que je trouvais que... je trouvais que j'avais du mal à avoir ce type de sentiment dans la vraie vie.
Le trait de tes personnages, c'est un travail de longue haleine où très vite tu as su le trouver pour dessiner un modèle ou un personnage.
Il a toujours été tel que celui-là. Alors j'ai des traits qui sont très angulaires, qui peuvent être durs, hein, justement des gros traits. On va dire que c'est pas une peinture qui est très minutieuse. C'est une peinture de l'expression. Donc oui, ce trait-là, je l'ai toujours eu, je pense.
Et en même temps, tu étais autodidacte, hein, ouais. Ce que tu dis, tu n'as pas... tu as quand même suivi quelques formations au niveau des arts plastiques, je suppose.
Ouais. Alors quand j'étais jeune au lycée, voilà, j'avais l'option art plastique et puis, après c'était pas trop mon truc l'école. J'aimais bien le dessin, mais je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible pour moi de faire les beaux-arts parce que j'étais pas forcément adaptée au système scolaire. Donc après j'ai mis de côté, je peignais pour moi, mais je prenais pas de cours. Je fais la formation d'Iduc. Après, j'ai rencontré un artiste sur Nantes par le biais de modèles vivants. En fait, j'aimais beaucoup la pratique du modèle vivant depuis toujours. Et j'ai repris cette pratique-là. Et puis après, cet artiste-là, on a créé un lien artistique. Et c'est lui qui m'a appris l'huile, la technique de l'huile. Et voilà, donc ça fait à peu près 15 ans là que je peins de façon. Et puis j'ai fait une autre formation aussi qui est peintre en décor. C'était dans le but de faire des murs, hein, des fresques, des peintures murales. Voilà, pour pouvoir faire du très très grand et puis avoir un accès aussi sur des murs, créer des ateliers avec des personnes. Et puis voilà, et puis la peinture éphémère, c'est aussi. C'est une autre approche, c'est complètement différent, mais c'est autant intéressant en termes de social aussi.
Tu peux préciser peinture éphémère,
peinture éphémère, c'est quand on peint sur des murs extérieurs ou dans des lieux qui ont à vocation d'être détruits pour être reconstruits après. Donc c'est une peinture qui va faire vivre le lieu à un moment donné, mais qui n'a pas pour but d'être pérennisée, quoi.
Je connaissais un professeur artiste aussi. Lui, il a démarché des constructeurs de bâtiments à Paris. Et donc, il proposait de réserver un logement dans tout cet immeuble, de le faire en finition et d'y mettre ses expositions. D'ailleurs, ça permettait au bâtiment d'avoir justement un contexte publicitaire pour justement vendre les logements.
Oui,
et puis lui, il profitait aussi pour vendre ses expositions, ses œuvres.
Ouais.
Voilà, donc ça aussi, c'est une peinture éphémère, en quelque sorte.
Oui, on peut dire c'est une peinture éphémère. Ouais, tout à fait. Là, j'avais participé à une résidence qui était sur Nantes et c'était un ancien couvent qui était inhabité depuis 2 ans je crois et qu'allait devenir un habitat partagé pour seniors, donc allait tout être construit et en fait pendant cette durée ils ont fait venir une vingtaine d'artistes, on a repeint les murs du sol au plafond. C'est ce type de travaux-là.
Voilà, c'est comme si Adi ont décidé d'occuper en partie les bâtiments en construction pour pouvoir préparer une exposition éphémère. Voilà.
Ouais, ouais.
Il va y avoir ce jour du 24 juin avec ce finissage. Et vous avez aussi appelé une amie pour interpréter quelques morceaux.
Oui, tout à fait. Alors, c'est Véronika Bulicheva, qui est chanteuse, interprète, compositrice. Et qui fait de la chanson russe. Et j'ai réalisé la pochette de son album. Donc on a créé une sorte de collaboration. Je trouve que ces chansons peuvent résonner avec ma peinture, des poésies qu'elle interprète. Et c'est vrai que c'est des poésies qui ont un sens assez philosophique sur la vie, la mort. Il peut y avoir ce côté. Alors c'est vrai que c'est des chansons russes. Elle a quelques chansons en française, mais la majorité est en russe. Et elle arrive à mettre par la langue en tout cas, moi, je ne comprends pas le russe, je ne le parle pas. Et elle a réussi à m'émouvoir de par le positionnement qu'elle prend pendant et l'interprétation qu'elle en fait, ces chansons-là. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de philosophie, de vie, de sens de la vie, comment exister sur des valeurs autour de l'humanité. Mais c'est vrai que notre rencontre, moi à un moment j'avais repris des études à distance plus tard et j'avais travaillé autour des rapports sociaux du communisme, de l'enjeu des rapports sociaux de sexe liés au communisme. Et en fait c'est ce travail-là qui m'avait fait rencontrer Véronika Et voilà. Et donc j'ai aussi un intérêt aussi pour ces recherches autour du communisme et de l'État soviétique. Et je pense que ça peut se ressentir également dans mes peintures. Puis c'est vrai que c'était chouette ce travail de pouvoir faire sa pochette d'album. C'est un album qui est sorti là tout récemment en avril. Et voilà. Et donc, je vais dire quand même, le finissage va se passer le jeudi 24 juin à 17h. Donc, elle va jouer à peu près, je pense, à peu près trois quarts d'heure. Et puis, il y a un autre temps aussi sur dix, parce qu'elle arrive lundi, elle va jouer, donc là, ce qui n'a pas à voir avec l'exposition, mais elle va jouer au café L'Andarta. Et donc là, ça sera à 20h lundi soir.
Quelles étaient les époques à peu près où tu t'es intéressée, surtout dans l'ère soviétique?
Et ben c'était autour de la révolution bolchevique et comment s'est construite cette révolution. Et puis en fait, ce qui m'a le point de regard, c'était aussi autour des textes. Les textes étaient assez intéressants en termes d'évolution pour les femmes dans la société. La mise en application a été beaucoup plus complexe, hein, bien sûr. Les textes au départ, donc en 17, après, au moment de la révolution bolchevique, du coup, permettait aux femmes de divorcer. Il y a eu la possibilité de l'avortement à ce moment-là. Donc, ça a été au niveau mondial, ça a été vraiment la révolution bolchevique qui a, en tout cas, pensé les droits pour les femmes. Il y avait aussi ce qui était assez incroyable, c'est qu'il y avait une préoccupation, en tout cas, une visibilité autour des personnes trans et des droits des personnes trans. C'était nommé dans les textes. Il y avait aussi, pour les ouvrières, un droit à prendre des congés menstruels, c'est-à-dire quand les femmes avaient leurs règles. Donc ce point de vue-là, autour du texte, hein, je parle pas de la mise en pratique, parce que là aussi, c'est aussi il y a aussi beaucoup de ruralité. Enfin, c'était, je pense, compliqué à le mettre en place. Et ça ne s'est pas mis en place. Hein. Et en fait, c'est ce point de vue-là qui m'a intéressée, où je me suis dit quel impact ça a pu avoir sur les rapports sociaux de sexe, sur la place des hommes, des femmes. Après, j'ai toujours pas fini ce mémoire-là parce que j'allais chercher. J'ai fait pas mal de rencontres avec des femmes justement pour essayer de comprendre l'enfance, l'adolescence, quelles étaient les projections, comment. Et puis, en fait, plus ça allait, plus je me disais. Oh là là, mais en fait, c'est un travail extrêmement. Je peux pas écrire quelque chose. Il y a besoin d'aller creuser davantage. Sinon, je vais faire des raccourcis. Voilà. Donc, c'est un travail en perpétuel qui finira peut-être jamais, d'ailleurs.
Au début de l'émission, tu parlais d'histoire dans tes tableaux. Oui. C'est un tableau où sont insérés des indices qui peuvent amener l'histoire.
Alors, ouais, certains tableaux, je peux mettre des indices, mais je pense que c'est plus pour moi, pour créer un lien dans l'histoire. Dernièrement, j'ai fait une série de trois tableaux, dont trois grands tableaux. Et c'est vrai que je suis partie sur ce tableau-là en sachant pas où j'allais. Donc, c'est pareil, j'ai fait pas mal de personnages. Et puis, à un moment, il y a une femme qui était dans sa posture, qui démontrait d'une puissance. Et du coup, en fait, ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à Don Quichotte. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la mettre Don Quichotte au féminin. Et puis, comme elle avait un pied qui était, une jambe qui était assez relevée, du coup, je l'ai intitulé Donna qui shoot. Du coup, j'en ai fait une série de trois. Je pense que d'un regard extérieur, c'est assez compliqué de voir que c'est une série qui a du lien. Moi, j'avais ce lien de pensée de l'histoire de Don Quichotte. Et après, il y a d'autres tableaux où il n'y a pas forcément d'éléments de compréhension. Et finalement, j'aime bien aussi quand même cette idée de ne pas faciliter toujours ce lien de compréhension parce qu'on peut, chacun... voilà, le raconter d'une manière différente, le ressentir d'une manière différente. Et c'est aussi intéressant parce qu'il y a des personnes qui échangent sur mes tableaux, sur des choses dont j'avais moi pas pensé. Voilà, comme ça.
Exposition donc visible actuellement jusqu'au 24 juin à l'ancien monastère. Il y a des horaires pour y être ?
Oui, Alors, en fait, le monastère est ouvert tous les jours. Tous les jours, l'expo est ouverte tous les jours, donc de 10h à 17h. Moi, j'y suis tous les après-midi. Sur le week-end, je pense que je vais y être toute la journée. Et voilà, donc 10h, 17h, tous les jours.
Est-ce qu'il y a une possibilité de visualiser ton travail ?
Oui. Alors, j'ai une page Instagram, c'est Cynthia Pedro 1, pas évident. Sinon, sur le site Art Majeur, en fait, on voit toutes mes toiles, ça me sert de site. Hein. Donc, Art Majeur, et là, on peut Cynthia Pedrosa.
Eh bien, Cynthia Pedrosa, je te remercie d'être passée au studio de Erdua pour nous parler de cette exposition. Donc, à l'ancien monastère, et bonne soirée.
Merci.
Ich kenne mich eigentlich nicht. Doch dem Spiegel, was ist das für ein Gesicht? Ich kenne mich eigentlich nicht. Was war denn das vorhin? Wie kann ich da so reagiert haben? Ich kenn mich eigentlich nicht. Es liegt mir so schwer auf der Seele. Ich kenne mich überhaupt nicht.